Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 19 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Présidentielle en Guinée, l'opposant Sélou Damien Diallo revendique la victoire sans attendre les résultats officiels. En Côte d'Ivoire, un mort et des blessés graves lors d'une manifestation de l'opposition à Bonoua. Poursuite des manifestations au Nigeria où des jeunes ont attaqué des postes de police. À 2 semaines de la présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden enchaînent les visites dans les États pivots. Vaste opération policière contre la mouvance islamiste en France après l'assassinat d'un professeur d'histoire. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée, l'heure est au dépouillement au lendemain de la présidentielle. Sans attendre les résultats officiels, l'opposant Sélou Damien Diallo affirme avoir remporté le scrutin. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé. Le point avec Zakaria Camara à Conakry.
« Je suis le vainqueur de la présidentielle », vient de déclarer Sélou Damien Diallo au cours d'une conférence de presse à Conakry. Le parti du président Alpha Condé n'a pas fait de réaction à cette annonce. La commission électorale nationale indépendante, elle, sera devant la presse dans quelques heures. Dans la nuit de dimanche à lundi, des scènes de liesse ont été signalées dans les rues de la capitale. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement guinéen accuse l'opposant Sélou Damien Diallo d'avoir planifié, bien avant le scrutin, une stratégie de célébration forcée, prématurée et injustifiée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La commission électorale guinéenne juge prématurée et nulle la proclamation de victoire de Sélou Damien Diallo à la présidentielle. Il n'appartient ni à un candidat ni à aucune autre personne de s'autoproclamer vainqueur en dehors des instances définies par la loi, a affirmé Bakary Mansaré, vice-président de la CENI. En Côte d'Ivoire, un mort et plusieurs blessés à Bonoua lors d'une manifestation de l'opposition pour la désobéissance civile avant la présidentielle du 31 octobre. La victime est un jeune et il y a une dizaine de blessés graves, a annoncé le maire de la ville Jean-Paul Amétier, qui accuse les forces de l'ordre d'en être responsables. Bonoua était le fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Une mission de la CEDEAO en visite en Côte d'Ivoire a appelé le pouvoir et l'opposition à faire des efforts pour parvenir à un accord concernant cette présidentielle. Après avoir rencontré le président Alassane Ouattara, qui se représente pour un troisième mandat, et les candidats d'opposition Henri Konan Bédié, chef du PDCI, et Pascal Affine-Guessant, chef d'une aile du FPI, la mission a noté la persistance des points de divergence sur le processus électorale et la méfiance persistante des candidats et acteurs politiques à entreprendre un dialogue. Au Nigeria, les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies ce lundi, une journée marquée par des attaques de postes de police. Le point avec Mouhamadou Oumfa.
Des milliers de manifestants ont bloqué plusieurs routes principales de Lagos, la mégapole de 20 millions d'habitants. À Abuja, selon Amnesty International, des bandes armées ont attaqué les manifestants, blessant des douzaines d'entre eux. Dans la capitale de l'État d'Edo, un État où le taux de criminalité est particulièrement élevé, des centaines de manifestants sont aussi descendus dans les rues. Selon des témoins, ils marchaient en chantant « Plus de Buhari » en référence au chef de l'État nigérian. Ils ont été confrontés à des groupes de jeunes armés de bâtons ou d'armes de poing, accusés d'être payés par des responsables politiques locaux. La police a signalé les attaques de plusieurs commissariats et le gouverneur de l'État d'Edo a annoncé la mise en place d'un couvre-feu de 24 heures à partir de ce lundi après-midi. Ces manifestations, qui durent depuis une dizaine de jours, ont fait au moins 15 morts, selon Amnesty International.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé Khartoum à stabiliser la région frontalière du Nil Bleu, où selon lui sont entraînés et armés des combattants impliqués dans des attaques en Éthiopie. La violence dans l'état de Benishangul-Gumuz est attribuée à des facteurs ethniques par l'opposition éthiopienne. Au moins 12 personnes ont été tuées la semaine dernière dans la zone de Metekel et 15 fin septembre dans une attaque similaire. Le président américain Donald Trump a évoqué un accord avec le Soudan sur l'indemnisation des familles des victimes des attentats de 1998 contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam. Il s'est dit prêt à retirer le pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Selon lui, le gouvernement soudanais a accepté de payer 335 millions de dollars. Sur Twitter, il affirme qu'il retirera le Soudan de la liste noire une fois la somme versée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le vote anticipé a débuté en Floride, plus grand des États américains qui seront décisifs pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Donald Trump et Joe Biden y sont au coude à coude. À 2 semaines du scrutin, le président sortant se rend en Arizona, un autre État très convoité, pour 2 nouvelles étapes de meeting entamées il y a 1 semaine après avoir guéri du coronavirus. Hier, M. Trump était dans le Nevada et Joe Biden en Caroline du Nord. Nous y reviendrons tout à l'heure dans un spécial sur la présidentielle aux États-Unis. En France, les autorités ont lancé une opération policière contre la mouvance islamiste après l'assassinat vendredi d'un professeur d'histoire qui avait montré en classe des caricatures de Mahomet. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 51 associations recevront des visites des services de l'État et plusieurs d'entre elles seront dissoutes. Le collectif contre l'islamophobie en France est dans le viseur. Le ministre dit détenir contre eux un certain nombre d'éléments. Ce collectif a dénoncé, je cite, « des calomnies d'une incroyable indécence compte tenu du contexte ». L'association humanitaire Baraka City, fondée par des salafistes, est aussi dans le collimateur. La folie s'empare du ministre de l'Intérieur qui, faute de ne rien trouver contre notre ONG, profite de l'émotion suscitée suite au drame de Conflans, a répliqué Baraka City sur Facebook. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, les enquêteurs ont placé 11 personnes en garde à vue. Plus de 80 enquêtes ont été ouvertes pour voir si le meurtrier, Abdoulak Anzorov, un russe tchétchène de 18 ans, a bénéficié de complicité. Le président Emmanuel Macron a déclaré que les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles en France.
Par ailleurs, le Parlement européen a ouvert sa séance plénière ce lundi par une minute de silence en hommage au professeur assassiné en France. Le président de l'institution, David Sassoli, a salué le combat de l'éducation contre la terreur. Le coronavirus a infecté plus de 40 millions de personnes et en a tué près de 1 100 000 dans le monde. Le point sur les nouvelles mesures avec Nanit Talani.
En Belgique, les cafés et restaurants seront fermés pour 1 mois à partir de ce lundi avec un couvre-feu en vigueur de 00h à 5h du matin. Pareil pour la Slovénie qui entame un couvre-feu dès demain. Le port du masque devient obligatoire dans les espaces clos accessibles au public. L'Autriche restreint aussi les rassemblements à 6 personnes à l'intérieur et à 12 personnes à l'extérieur, à l'exception des cérémonies funéraires. Le pays de Galles va instaurer à partir de vendredi un confinement de 2 semaines pour tenter de freiner la 2e vague du coronavirus. La frontière entre les États-Unis et le Canada restera fermée aux déplacements non essentiels jusqu'au 21 novembre. Les États-Unis restent le pays le plus touché en nombre de morts et de cas. L'Iran a enregistré lundi 337 décès supplémentaires. Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat, 65 ans, infecté au coronavirus, est dans un état critique. En Afrique du Sud, Zuelim Kizé, ministre de la Santé, est lui aussi testé positif. C'est le 5e membre du gouvernement à attraper le virus.
Londres a réaffirmé ce lundi que reprendre les négociations post-Brexit avec l'Union européenne n'aurait pas de sens, faute de changement de position de Bruxelles. Le sommet de la semaine dernière n'ayant laissé aucune base pour trouver un accord, selon elle. Une remarque faite au Parlement par le ministre Michael Gove, chargé de la coordination de l'action gouvernementale. En Thaïlande, des milliers de manifestants sont encore descendus ce lundi dans les rues pour demander la libération de militants et une réforme de la monarchie. Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a convoqué une session extraordinaire du Parlement face à ces protestations défiant le pouvoir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Salani.
En RDC, le gouvernement établit le budget 2021 estimé en recettes et en dépenses à 14 247,5 milliards de francs congolais, soit environ 6,8 milliards de dollars contre 11 milliards de dollars du budget initial 2020. Les autorités justifient cette baisse par le coronavirus qui a ralenti l'économie nationale. Le budget 2021 tient aussi compte des recommandations du FMI qui avait exigé un budget réaliste et avec lequel la RDC envisage un programme formel au premier semestre 2021. Ici, aux États-Unis, entre août 2019 et août 2020, le taux de chômage des personnes nées à l'étranger est passé à 10,2% contre 3,1% et celui des natifs à 8,1% contre 3,9% auparavant, indique l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Des tendances similaires sont observées en Europe, car beaucoup d'immigrés travaillent dans les secteurs les plus touchés par la pandémie, comme l'hôtellerie, la restauration, les services domestiques ou le maraîchage saisonnier. Certains détiennent aussi des contrats de travail temporaires qui risquent de ne pas être renouvelés. Pour terminer, le prix moyen du pétrole devrait être de 41,69 dollars le baril en 2020 et de 46,70 dollars le baril en 2021, bien en dessous de la moyenne de 57 à 64 dollars en 2019, selon le FMI. La croissance des exportateurs de pétrole devrait se contracter de 6,6%, tandis que les économies des importateurs devraient se contracter de 1%.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Après plusieurs mois de suspension, les matchs interclubes de la CAF, débutés en août 2019, ont repris leurs droits. Ce lundi démarre le Final Four de la Coupe de la Confédération avec un duel 100% marocain entre la Renaissance de Berkane, finaliste l'année dernière, et Hassania d'Agadir à Casablanca. Demain à Rabat, les Guinéens de Oruya vont en découdre avec les Égyptiens de Pyramide FC. La finale aura lieu le 25 octobre prochain au stade de Rabat. En Ligue des Champions, les deux matchs des demi-finales aller ont été disputés samedi et dimanche. Grosse performance des clubs égyptiens. Al Ahly a pris une option pour la finale en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Wydad Casablanca. Le Zamalek a réalisé le même exploit en s'imposant 1-0 face au récent champion du Maroc, le Raja Casablanca. Les deux clubs marocains ont une semaine pour refaire leur retard au match retour en Égypte. En Guinée, lancé mercredi dernier, la Ligue 1 Salam s'est poursuivie hier à Conakry. Le premier match a vu le centre industriel Kamsar l'emporter 1-0 devant l'Académie Sohar. Et puis, la deuxième affiche a permis à Wakria de Bouquet de battre Satellite FC de Conakry sur la marque de 2-1. Samedi, Louba a eu raison de Fellow Star score 1-0. En République démocratique du Congo, le Classico n'a pas dégagé de vainqueur. Le match le plus attendu de la saison entre les deux représentants congolais en Ligue des Champions, l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe, s'est soldé par un score de 0-0. Un match équilibré de l'avis de Florent Ibengué, entraîneur des Dauphins Noirs de Kinshasa.
Si on a mis cette configuration en face, c'était évidemment par rapport à ce qu'on avait aussi en face de nous. Donc voilà, le match était très équilibré. Je pense que le résultat nul est plutôt logique.
Florent Ibengué, entraîneur de l'AS Vita Club. À sa suite, le Serbe Drazen Svekovic, entraîneur des Corbeaux de Lubumbashi, donne rendez-vous aux supporters pour les prochaines journées.
On n'a pas eu ce brin de réussite que l'on aurait mérité sur la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, les deux équipes sont contrôlées, sont neutralisées, donc ça reste un match nul équitable.
Ça traîne encore ce but côté Tupi Mazembe. Qu'est-ce qui ne marche pas?
C'est-à-dire que là, on a besoin de conclure et de travailler la finition. Évidemment, j'espère que ça va se faire dans les prochains matchs.
Drazen Svekovic, entraîneur de Corbeau de Lubumbashi. Des propos recueillis par Valdo Simbo Yamba Yamba, notre correspondant à Kinshasa. Au classement, V-Club passe deuxième avec 7 points derrière Maniema Union, 10 points, et tenu en échec à domicile par le Saint-Éloi Loupopo, score 1 but partout, et puis pour le reste, Sanga Balandé a réussi son déplacement en venant à bout de l'AS Simba 3-2.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. On commence par la présidentielle aux États-Unis. Deux semaines avant la présidentielle du 3 novembre, les candidats intensifient leur campagne dans les États-clés. Dimanche, le président Donald Trump était dans le Nevada, tandis que son adversaire Joe Biden a visité la Caroline du Nord. Le point avec Abdourahmane Dia.
Donald Trump, qui cherche à remporter un second mandat, a appelé dimanche à l'unité des républicains. Il s'en est pris à ceux qui, dans son camp, multiplient les critiques à son encontre. Il dit avoir respecté tous les engagements pris lors de sa campagne de 2016. Donald Trump a par ailleurs mis en garde contre une administration Biden.
Cette élection est un choix entre une superbe relance économique sous Trump, dans laquelle nous sommes en ce moment, ou une dépression sous Biden. Vous aurez une dépression économique. Tout d'abord, allez payer 4 fois plus d'impôts. Vous aurez une dépression comme nous n'en avons jamais eu depuis 1929. C'est ce qui va se passer.
Le candidat républicain a aussi visité une église évangélique dans le Nevada. Le démocrate Joe Biden s'est lui aussi rendu à la messe dans une église catholique de son état de Delaware. Il s'est rendu ensuite à Durham, en Caroline du Nord. Joe Biden a dénoncé ce qu'il appelle une mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19 par l'administration Trump. Il a appelé ses partisans à ne pas attendre le 3 novembre pour voter, notamment l'électorat afro-américain sur qui il compte pour l'emporter dans cet état.
Imaginez ce que c'est d'être noir, d'aimer ce pays aujourd'hui comme il le fait. C'est un amour profond pour ce pays. Pendant trop longtemps, cela n'a pas été reconnu. Nous avons besoin de dirigeants capables de désamorcer les tensions, capables d'ouvrir les lignes de communication et nous rassembler. Guérir et espérer en tant que président, c'est précisément ce que je vais faire.
Donald Trump et Joe Biden continuent de battre campagne ce lundi en attendant leur dernier débat télévisé prévu ce jeudi à Nashville, dans le Tennessee.
À deux semaines de la présidentielle américaine, les candidats Donald Trump et Joe Biden ratissent large pour faire passer leur message aux électeurs. Un reportage de Michel Klein, le récit est de Lionel Gaïma.
Cette semaine, les candidats à la présidentielle américaine, le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden, vont continuer de parcourir le pays pour tenter de convaincre les électeurs. Ils doivent se retrouver jeudi à Nashville, dans le Tennessee, pour un débat de 90 minutes. Les sujets publiés par la commission non partisane sur les débats présidentiels incluent la question raciale aux États-Unis, le changement climatique et la lutte contre la pandémie de coronavirus. La présidente de la Chambre de représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a donné à la Maison-Blanche jusqu'à mardi soir pour approuver un plan d'aide visant à injecter jusqu'à 2 milliards de dollars dans l'économie américaine, très affectée par les conséquences de la pandémie. Mais des désaccords subsistent sur le montant du financement à fournir aux États fédéraux et aux gouvernements locaux, entre autres. La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre de représentants.
Parce que nous voulons avoir un accord, nous pouvons revenir à une négociation et nous pouvons le faire maintenant. Quelle est la différence? Quelques jours, mais nous pourrions l'avoir avant les élections. Nous le voulons dès que possible.
À travers les États-Unis, plus de 27 millions de personnes ont déjà voté par anticipation, soit environ 6 fois plus que ceux qui l'avaient fait au même moment en 2016, selon un professeur de l'Université de Floride qui suit le taux de participation. Jusqu'à présent, les comtés démocrates ont connu un taux de participation plus élevé que les républicains. Alors que les sondages montrent que Trump est à la traîne derrière Biden dans plusieurs états pivots, Ronald McDaniel, président du comité national républicain, dit que les partisans du président vont sortir le jour du scrutin.
Nous voyons cette énergie énorme et nous voyons de très grands nombres sortir pour le président. C'est une course. Et tout républicain qui ne soutient pas le président se fait du mal à long terme.
Dans la dernière ligne droite avant le jour du scrutin, les candidats s'efforcent de susciter l'enthousiasme et espèrent que leurs partisans sortiront en masse pour voter.
Au Sénégal, la tendance à la baisse des cas de Covid-19 a incité le gouverneur de la région de Dakar à autoriser la réouverture des restaurants, boîtes de nuit et autres salles de spectacle. Une autorisation bien accueillie mais difficile à appliquer selon certains professionnels du milieu. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Le premier samedi ayant suivi la réouverture des lieux de loisirs n'a pas été aussi mouvementé qu'attendu. Dans la banlieue de Dakar, la reprise n'a pas encore été actée dans la majorité des boîtes de nuit à cause du bouleversement causé par le Covid-19. Amdi Ridial, artiste-compositeur, explique.
Pour l'instant, ça peut être un peu compliqué parce que on a perdu beaucoup de contrats, on avait organisé beaucoup de soirées, mais finalement, avec le Covid-19, on n'a pas pu réaliser tout ça. Mais actuellement, on compte c'est juste organiser des choses encore, mais je pense pas qu'on pourra gagner comme avant. Mais parce qu'actuellement c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, les moyens, parce que d'habitude nos soirées qu'on organise, les entrées c'est à 5000 francs, VIP 10 000.
Du côté des gérants de boîtes de nuit, les contrats sont peu, à côté du casse-tête que constitue le respect des mesures barrières dans les enceintes. Pour ces gérants expérimentés ayant requis l'anonymat, c'est tout simplement impossible de procéder au respect de ces mesures dans certaines conditions.
Le milieu dans lequel nous sommes, on parle de boîte et qui dit boîte dit publicité, dit les gens qui viennent chaque jour, le bouche à oreille, le fait. Donc il y a cette peur qui règne, vu que toutes les mesures barrières, les gens essaient même de les respecter, mais ça ne sera pas possible. Ils vont faire ouvrir les salles qui prennent moins de 500 personnes. Moins de 500 personnes, c'est beaucoup de monde déjà. Et pour respecter ces mesures barrières, dans les boîtes, c'est impossible. C'est quasi impossible.
Certains habitués des salles de spectacle ne sont pas ébranlés par les craintes exprimées par les professionnels du milieu. Pour Major Fall, l'essentiel c'est de prendre du plaisir, quel que soit le coût ou les conditions.
Même si le coronavirus est là, les Sénégalais n'ont pas peur, on dirait. Les boîtes vont se remplir comme avant, malgré tout ce qui se dit. Les tarifs n'ont pas encore changé et varient entre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 et 100 000 francs. Les boîtes vont récupérer l'argent perdu parce que ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, comme moi, sont pressés de voir la réouverture être définitive.
La décision du gouverneur de Dakar permet certes la réouverture des lieux de loisirs, mais beaucoup de professionnels du milieu sont encore loin de voir le bout du tunnel. Entre les conditions sanitaires fixées par les autorités, la révision des contrats et la mise en place d'une grille tarifaire adaptée à la crise, le chemin paraît encore long. À Dakar, Sérina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Cameroun, les populations des zones forestières du département du Nkam craignent de ne plus pouvoir exploiter les produits forestiers non ligneux. Les communautés riveraines de la forêt des Baux sont ainsi très inquiètes sur leur devenir. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Junta.
Mamba est un petit village de l'arrondissement du Nkam. Difficile d'accès, surtout en cette saison pluvieuse. Le village est situé au cœur d'une forêt dense. Des jeunes, à l'instar de Samuel Yumba, tirent des ressources de cette forêt depuis 11 ans.
Tous les produits nous aident ici beaucoup. Des écorces qui nous aident à se soigner. Je sais que si je suis malade, il y a du coromon à côté. Je sais qu'il y a, un arbre jaune là, c'est pour mélanger quand j'ai de la fièvre.
L'utilité de la forêt du village Mamba est aussi capitale pour Pierre Claver Mbédé, Il est un jeune cultivateur.
Nous n'avons pas trop besoin d'aller nous faire traiter à l'hôpital. Nous avons des écorces à gauche et à droite que nous exploitons par rapport à notre santé et l'agriculture nous en sert. Détruire tout ce que je vois de beau là, bien là, non? En faisant mon champ de poivre, le champ d'arachide, manioc, machin, c'est bien l'exploitation. Ce que nous voulons, c'est que l'État ou les gouvernants nous entretiennent la route.
Les épices, les huiles essentielles, le rotin, les bambous, la production piscicole dans les forêts marécageuses et les mangroves sont autant de produits forestiers non ligneux que l'on retrouve dans les forêts du département du Nkam. Le long de la route qui mène vers le village Ibouti, à plus de 330 km de Yaoundé, une activité commerciale florissante de certaines écorces aux vertus thérapeutiques emploie les jeunes du village, à l'instar du Tien Mundi, qui voit de mauvais œil une exploitation agro-industrielle de leur forêt.
Nous sommes nés ici, c'est ça qui nous donne tout. Avec ça, on envoie nos enfants à l'école. Nos parents nous ont fait grandir dans ça et nous aussi on compte aussi peut-être faire émerger nos enfants grâce à nos forêts. Nous sommes comme des petits mères, on vit de la chasse, peut-être que certaines des causes qu'on trouve dans la forêt. Et ça, c'est ça qui nous fait suivre.
Le département du Nkam est l'un des plus enclavés du Cameroun. Les autorités traditionnelles, les élites et les autres communautés se déchirent au sujet des projets de conservation de forêts ou de leur exploitation par les agro-industries dans ce département. Joseph Désiré Messina, notaire dans le village Mamba.
On n'a pas de route, on n'a pas de pont, on n'a rien, école rien, hôpital rien, l'eau rien. Comment vous allez exploiter le village alors qu'il en manque de route et de pont?
Les villes de Douala et Yaoundé sont les deux plus gros marchés de vente des produits forestiers non lignés au Cameroun. Les semestriels sont estimés à plus de 5 millions de francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui et à très bientôt sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 18 août, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État militaire largement condamné. Les États-Unis ont immédiatement cessé leur assistance sécuritaire au gouvernement malien. Le bloc économique ouest-africain, la CDAO, a suspendu le Mali de ses institutions et imposé des sanctions en attendant la formation d'un gouvernement civil de transition. En fin septembre, Ba Ndao, un colonel à la retraite, a été désigné président du Mali. Le colonel Assimi Goïta, chef de la junte ayant mené le coup d'État, a été installé comme vice-président de la transition. Le diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, a été nommé premier ministre de la transition. Ils sont chargés de diriger une transition civile de 18 mois et qui aboutira à des élections. Le 5 octobre, le président de la transition, Ba Ndao, a formé un gouvernement complet. La CDAO a alors levé ses sanctions. Les États-Unis perçoivent la mise en place de ce gouvernement de transition comme l'étape initiale vers un retour à l'ordre constitutionnel. Le porte-parole du département d'État, Morgan Ortegas, a dit « Nous exhortons le gouvernement de transition à honorer ses engagements envers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment en organisant des élections démocratiques dans les 18 mois. Il sera également important que le gouvernement de transition tienne ses promesses envers le peuple malien de renforcer la gouvernance, de lutter contre la corruption, de réformer les processus électoraux et de mettre en œuvre l'accord de 2015 pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Kelly Craft, a souligné que les États-Unis n'accepteront pas le contrôle militaire des autorités civiles, les retards dans les élections ou les élections qui ne sont pas crédibles. Les élections doivent également inclure la participation pleine, effective et significative des femmes, des personnes déplacées et des réfugiés, des jeunes et des groupes nordistes marginalisés. Les États-Unis soutiennent le peuple malien et ont alloué 54 millions de dollars en nouvelle aide humanitaire au Mali. Le porte-parole Ortegas a déclaré « Nous croyons fermement qu'un Mali démocratique, prospère et sûr est essentiel pour l'avenir de la région du Sahel. En tant que partenaire du Mali depuis plus de 60 ans, les États-Unis travailleront avec tous ceux qui sont attachés à ces objectifs. Le moment est venu pour les Maliens de se rassembler pour construire un avenir meilleur et plus brillant pour tous. »
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement.